Maintenant, tu vas voir comment se parlent les vrais mecs.
Dylan! Sale petit enfant de putain!
C'est de cette façon que les vrais mecs se parlent entre eux.
Bonjour Gaston.
Bonjour Lorenzo. Comment vas-tu aujourd'hui?
La patate, la pêche, la forme.
Voilà, on est bien. On parle plus fort aujourd'hui.
Donc aujourd'hui, épisode numéro 2. Donc comme on a fait l'histoire de la femme, enfin comme on a fait l'histoire de la virilité et de l'homme la fois dernière, aujourd'hui on va...
Je parie, laisse-moi deviner, qu'on va parler de la femme.
Exactement, hein, puisque c'est une danse qui se danse à deux. Wikipédia est quand même vachement plus fournie en ce qui concerne la féminité et la femme. Hein. Il y a quand même vachement plus de contenu,
ouais,
je te jure. Ouais, c'est un truc que moi j'ai trouvé ça plutôt marrant. Donc j'ai pas mal de choses à dire aujourd'hui, on va essayer de faire bref, concis. Je sais que, même si c'est agréable de les écouter, faut pas déconner. Histoire de la femme. Donc aujourd'hui, on va remonter jusqu'à l'Égypte ancienne.
Oh, bah tiens, pour changer.
On va remonter jusqu'à l'Égypte ancienne, jusqu'à nos jours. Dans la tradition aujourd'hui, on accorde une importance particulière au rôle social de femme au foyer, qui doit être consacré aux tâches ménagères, à la reproduction et à l'éducation des enfants. Même si ce rôle de femme n'est pas exclu par l'exercice d'une profession, notamment depuis la révolution industrielle. Mais qu'en était-il à l'époque ? Eh bien, on va commencer par donc, l'Égypte ancienne, je disais. Donc, sur leur quotidien en tant que tel, on n'a pas vraiment de connaissances. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a donc deux grosses souveraines égyptiennes qui ont été là, c'est-à-dire Nictocris et Hatshepsut. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, mais je vous laisserai vérifier. D'autres ont eu des rôles politiques auprès des pharaons, comme Néfertiti, Néfertari. Et en fait, c'était des épouses qui étaient plus là pour l'apparat, mais leur fonction, c'était principalement de gérer le harem de femmes, hein, du roi. Donc, dans ces époques-là, la femme était obligatoirement monogame. Si jamais il y avait adultère, ça se passait très mal.
Ça se passait mal.
La polygamie, c'était que pour les hommes. Voilà, hein, faut le savoir.
Ça n'a pas vraiment changé en Égypte, je pense.
Aujourd'hui, je ne sais pas.
Mais on verra bien. Il faudrait se renseigner.
En tout cas, il y avait un rôle qui était valorisé, celui de la mère. Les femmes pouvaient travailler, mais c'était une forme de déchéance sociale, à part tout ce qui était emploi religieux. Et les femmes n'ont pas le droit à l'apprentissage, donc pas d'écriture, pas d'école, pas d'administratif.
Pas d'éducation, quoi.
Voilà, et donc la vie politique n'existe pas. Par contre, elles avaient un droit au divorce. Un droit au divorce, et en cas de divorce, de veuvage ou de répudiation, il y avait une aide sociale.
Bah dis donc, et ils étaient plutôt visionnaires pour l'époque.
Voilà, il y avait quand même quelque chose de très progressiste là-dedans. Hein. Donc 6 femmes... souveraine en Égypte sur 3000 ans d'histoire, dont la plus célèbre, je disais tout à l'heure, Hatshepsut. voilà, Hatshepsut.
Bon.
Les femmes grecques et romaines. Donc chez les Grecs, dans les épopées homériques, les femmes ce sont des épouses, des reines, des maîtresses de maison. Les femmes athéniennes sont des éternelles mineures, donc pas de droit juridique ni de droit politique, hein, toujours en fait sous le joug de leur mari. Là il y a un droit de divorce mais seulement pour le mari. S'il y a adultère, le mari qui a été trompé, il a le droit de vie ou de mort sur l'amant et la femme.
D'accord.
Terminé. Tu vois, il n'y a même pas de... On ne se pose pas la question, hein, voilà. Les femmes travaillent. Elles sont interdites de faire la guerre et la politique. Dans la religion, les hommes et les femmes sont égaux, il n'y a pas vraiment de différence. Et par exemple, à Sparte, l'école était obligatoire pour les femmes de 7 à 18 ans, et c'était donc intellect et physique.
Éducation physique également.
Voilà, elles étaient obligées de faire de la lutte comme les hommes, de la course à pied, et une culture artistique.
Alors moi, j'ai une question du coup sur ce que tu viens de dire.
Oui.
Tu disais que les femmes travaillaient déjà donc, dans le temps, à cette époque.
Mmh.
Est-ce que tu as quel genre de poste pouvait-elle occuper? Quelle fonction éventuellement? Est-ce que tu as des infos là-dessus?
De ce que j'ai lu, beaucoup dans le commerce.
D'accord, vendeuse.
Voilà. Beaucoup aussi dans l'occupation des enfants. Enfin, dans l'occupation.
Dans la garde des enfants.
Beaucoup dans la garde des enfants. Dans l'éducation des enfants.
D'accord.
C'était les principaux. Et ici, dans la conception de vêtements aussi, beaucoup. tout ce qui était industrie de couture, quoi. Ensuite, je passe aux Romains. Alors, les femmes romaines, elles avaient un statut beaucoup moins draconien que les Grecs. Hein, déjà, donc elles aussi étaient mineures. Elles étaient considérées comme mineures et sous tutelle de leur père et de leur mari. Mmh. Mais Marc Aurèle, il met fin au IIe siècle. Déjà, sympathique, Marco.
Ouais.
Elles avaient donc du coup libre accès au stade, au théâtre. Elles pouvaient y aller d'elles-mêmes sans demander l'autorisation à qui que ce soit. Elles avaient le droit au divorce, mais par contre, la politique aurait été refusée encore une fois. Interdit de.
C'était chasse gardée pour les hommes.
Voilà, pas de politique pour les femmes.
Très bien.
Donc, après vint l'Église catholique romaine.
Hey, bien sûr.
Et donc là, l'Église catholique romaine, elle prend position pour les femmes. Comme Dieu crée l'homme et la femme à son image, du coup, comme elles peuvent croire en Dieu, elles ont une âme. Et à partir du moment où elles ont une âme, elles deviennent l'égale de l'homme. Et c'est pour ça que saint Augustin, par exemple, il distingue ainsi l'ordre de la grâce. Et dans la grâce, la femme est l'égale de l'homme. Et dans l'ordre de la nature, elle est à son service.
Mmh.
Ensuite, donc les femmes sont vraiment placées au sommet avec l'image de la Vierge Marie. Donc il est vrai que la Vierge va avoir un statut particulier, vraiment la pureté, ça va vraiment être la femme à protéger. Ça va être très important. Ensuite, donc il y a une idéalisation de la femme qui se place à ce moment-là. Dans la littérature, les arts, la place de la femme est absolument unique. C'est vraiment à ce moment-là où la femme rayonne, quoi.
D'accord, donc elle n'est pas dans la cuisine, mais...
voilà, hein. Pour nos contemporains. et en fait, l'Église, et c'est là où c'est assez marrant, parce que personne ne dit ça naturellement, mais l'Église ne conçoit pas qu'une femme puisse être moindre qu'un homme dans cette société. C'est impossible.
Mm-hmm.
Plus l'Église prend du pouvoir au sein de l'ancienne société romaine, elle joue dans l'ensemble un rôle de protection vis-à-vis des femmes. L'Église réprime progressivement le viol, le rapt, ouais. Et l'inceste. Alors, voilà, hein, là encore, on a beaucoup d'idées reçues là-dessus. Et finalement, hein, l'Église était là.
Et en même temps.
Et donc vint le mariage chrétien. Le mariage chrétien, il établit liberté de choix et liberté de volonté des deux époux. Hein, c'est très important, chacun se choisit comme il a envie et il faut que tout le monde soit consentant.
Et on est avant les mariages arrangés, etc. Eh ben, quand même, là, c'est...
On est sous Clovis à peu près. Tu vois,
c'est ça. Donc on est bien avant.
Entre 450 et, oui. Et 900. Quoi.
Mm-hmm.
La répudiation est interdite, donc on n'a plus le droit de jeter au pilori sa femme. Hein. le divorce est autorisé, donc trois cas de possibilité de divorcer. La stérilité.
Mm-hmm.
Si on apprend qu'il y a une consanguinité en fait avec son mari,
ouais.
Et l'adultère. Hein, l'adultère.
Parce que les tests n'étaient pas légion à l'époque.
Non,
je veux dire, tu t'en rendais compte un peu tard, mon ami.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'on
quand tu avais fait un premier gamin, voilà. Et qu'il était un peu bizarre,
c'était le test.
Ton cousin, c'était pas le... Et voilà.
Donc, si.
donc voilà. Et donc l'adultère est puni. Et donc, on est au VIe siècle, il a paru les couvents. Et les couvents, c'était vraiment le garant de la sécurité matérielle pour toutes les femmes qui décidaient de rentrer dans l'ordre et pour se vouer à une vie spirituelle et intellectuelle. Ensuite vint le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, donc au moment de l'émiettement de l'Empire carolingien, au moment des rois fainéants, juste avant les Capétiens, y avait beaucoup de femmes qui en avaient profité justement pour prendre beaucoup de pouvoir. Elles avaient accès à la noblesse, elles avaient du pouvoir politique, économique, voire même militaire. Certaines avaient des milices qui se permettaient d'aller attaquer d'autres royaumes.
Oui, bien avant Anne de Bretagne, alors.
Tout à fait. L'Église au Moyen-Âge, qu'est-ce que c'est ? Alors, du coup, donc, l'Église au Moyen-Âge, à un moment donné, donc, souhaite limiter le nombre de religieuses et éliminer le pouvoir des femmes. Donc là, on arrive, on est... Donc
finalement, on fait un peu retour arrière, quoi. C'est...
Bah, c'est moi, j'ai l'impression, hein, là, c'est une impression personnelle à ce sujet, qu'il y a un éternel recommencement, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les femmes prennent...
Il y a une prise de conscience qui
se fait. Trop de pouvoir dans la société...
C'est pas bon.
Et l'homme se sent obligé de la casser dans
ses... Parce qu'il se rend compte à un moment peut-être que c'est pas une bonne idée et que son...
Ça, après, chacun juge...
très mauvais manager, peut-être. On en reparle.
Voilà, mettons.
Ce sera un de mes prochains sujets, ça, d'ailleurs.
Très bien. Très bien, Gaston. Donc, la littérature médiévale, donc, entre le 11e et le 12e siècle, oppose deux genres. Donc, l'un, la malice de la femme, vraiment la femme perverse qui va essayer de manipuler.
Bien sûr.
Et de l'autre côté, un comportement vertueux des femmes de haut rang, de femmes supérieures. Et au XIIIe siècle, ce sera la littérature chevaleresque. On l'appelait le chevalier blanc.
Bien sûr, la Pléiade, etc. D'accord, très bien.
Qui va l'emporter ? Ensuite, donc la Renaissance, dans l'Occident, il va y avoir une réinstauration du droit romain. Donc là, le pouvoir des femmes va reculer énormément. Les femmes seront exclues de la sphère politique et publique. Quelques femmes accédèrent cependant au pouvoir royal, surtout en Angleterre, et d'autres deviendront parfois régentes, hein, comme Catherine de Médicis l'a bien connue. Elles redeviennent des véritables mineures, abolissant ainsi les acquis chrétiens du haut Moyen-Âge. Les femmes sont désormais interdites de recevoir la même culture que les hommes. Mmh. Sur les contrats de mariage, on met la profession de l'époux, mais pas de l'épouse. Hein, on veut vraiment effacer une possible...
Une quelconque évolution, prise de pouvoir, entre guillemets, sociale.
Voilà, leur statut. Femme.
D'accord.
Donc, du coup, bah là, pour le coup, on pourra le dire, les femmes sont reléguées à la cuisine.
Cuisine.
Hein, voilà, puisque leurs charges sont quasi exclusives sur le travail domestique et la reproduction. Dans le monde rural, donc, bon, bah là, elles travaillent quand même dans le secteur agricole, hein. Et dans le monde urbain, donc il y a trois secteurs vraiment, et tu vois, on va retrouver en fait ces trois secteurs dont je te parlais tout à l'heure.
Domesticité, tu veux dire ?
Voilà, la domesticité, le textile et le commerce. Voilà, là on retrouvait
les... On se retrouve un peu chez les Romains, c'est ça ?
Exactement. Ensuite, l'Église catholique de la Renaissance. Alors là, le droit romain s'impose vraiment au sein de l'Église. À son tour, donc la misogynie, des traités théologie morale sont très féroces envers les femmes. Par exemple, Jeanne d'Arc qui a fini brûlée.
Oui. Hein, voilà.
L'humanisme et la réforme protestante n'améliorent pas leur statut. Hein. Ils sont humains avec les hommes, mais pas avec les femmes apparemment. Donc c'est pas fun. Donc après vient les Lumières. Donc, pendant les Lumières, donc, l'importance de la vie de famille fait que les femmes donc, sont assujetties au rôle d'éducatrice.
Éducation.
Ah oui, et c'est à ce moment-là qu'on commence à parler de nature féminine. C'est-à-dire que la nature féminine, c'est de pas avoir raison. Enfin, c'est pas, une femme ne sera pas... comment dire, dirigé par la raison, mais par ses sentiments, par l'amour, tout ça. La femme devient un animal émotionnel et plus pragmatique. Et donc cela signifie que la femme, en fait, se voit cantonnée hein, uniquement, là encore, hein, on affirme toujours, on martèle ça, c'est au rôle de mère
ouais.
et d'épouse. Hein. La vie de la femme sera déterminée par sa famille puis son mari. Donc il y aura beaucoup de femmes artistes, enfin il y aura des femmes aussi qui seront reconnues, des femmes artistes qui seront reconnues, mais ce sera toujours des femmes d'aristocrates, ce sera toujours des femmes...
Des femmes d'eux.
Voilà, des femmes d'eux. Et elles, on les laissera s'exprimer.
De Pompadour, par exemple.
Par exemple, comme la marquise de Pont-Rambouillet, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Et cependant, le droit à l'éducation des femmes reste donc un sujet d'incompréhension et de moquerie.
Ah. Hein
plusieurs femmes parviennent à marquer les arts, les sciences et le pouvoir. Malgré ça.
Bien avant Marie Curie, du coup.
Eh oui. Donc, vient la Révolution. Donc, pendant la Révolution, certaines femmes chercheront à défendre leurs droits, mais l'inégalité homme-femme augmente encore après la Révolution. Les femmes furent ainsi officiellement exclues du droit de vote par l'Assemblée nationale le 22 décembre 1789.
Ah, c'est précis.
1789.
C'est précis.
Le divorce civil est instauré.
Donc alors, attends, je reviens sur... C'est-à-dire qu'en termes de droit de vote, on a quand même fait un pas en c'est le frigo. Un pas en arrière et un pas en avant, puisque avant 1789, les femmes avaient le droit de vote. C'est ça que tu nous enseignes là ce soir.
Non, elles n'avaient pas le droit de vote. Mais on le note noir
d'accord,
sur blanc.
Donc c'est la nouvelle constitution après la Révolution.
Voilà, exactement.
On est en décembre 89, les femmes, ça vote pas.
Voilà.
Jusqu'en elles reprendront ce droit en 45 de mémoire.
44. Et elles voteront pour la première fois en.
Après la guerre.
On le dit de toute façon.
Oui.
Donc là, le divorce civil seulement, pas religieux, donc est instauré. Le féminisme aura donc sera désormais allié à un parti de progrès, de gauche et de socialisme. Enfin, ce sera une utopie socialiste, pour être précis.
Un peu comme aujourd'hui, finalement.
J'ai rien dit. Donc, la commune reconnaît l'union libre, interdit la prostitution et met en place un début d'égalité salariale.
Ah.
Déjà, à l'époque, on en
parle.
C'est pas
mal. Tu vois, voilà. Alors, pas de droit de vote, mais égalité salariale.
Voilà.
Finalement, l'un dans l'autre.
Lequel choisir ? C'est vrai. Au 19e siècle, les femmes entrent dans les usines. La mécanisation permet donc la substitution d'ouvrières peu qualifiées à des emplois qualifiés autrefois exclusivement masculins. Comme on disait, à l'inverse, sur la virilité, donc l'entrée de la machine fait la différence. C'est fait que les femmes...
Elles peuvent avoir accès à certains postes, effectivement.
Voilà, peuvent rentrer, puisque la force physique n'est plus, aussi valorisée.
Une qualité première.
Voilà. Et donc, le salaire des femmes, nettement inférieur à celui des hommes, est également une aubaine pour les employeurs. Les premiers syndicalistes dénoncent la concurrence déloyale, mais aussi la désorganisation des foyers qui entraîne le travail féminin. Et oui, parce que donc, du coup, ces hommes malheureux se retrouvent à être eux aussi obligés de s'occuper de leurs enfants, qui laissent courir à travers champs.
D'accord.
Oui. Si papa et maman travaillent, il n'y a plus personne pour s'occuper des enfants.
Il n'y a plus personne pour gérer les gamins, quoi. Et oui.
Et donc, lors du congrès de Genève de l'Association internationale des travailleurs en 1866, le refus du travail des femmes est voté à leur initiative, au motif qu'il constitue un principe de dégénérescence pour la race et un agent de démoralisation de la classe capitaliste.
Alors, pour faire court, en gros, donc ça revient à ce que tu disais, c'est-à-dire qu'ils prennent conscience que si on met papa, maman à bosser... Il y a un problème éducatif, ça traîne dans la rue, ça fait des conneries, etc.
Voilà.
On est désœuvré, et donc maman serait plus à même de gérer l'éducation, quoi. C'est-à-dire qu'ils en viennent à cette conclusion.
C'est à peu près ça.
Voilà.
Donc, ensuite vient le XXe siècle, et là, donc, les guerres mettent l'intégralité des femmes à l'usine, hein, puisqu'on n'a pas le choix. À la libération, les femmes... n'ont pas été épargnés, puisque le phénomène collectif et revanchard des femmes tondues a été observé. Hein, d'ailleurs, je l'illustrerai par cette contrepétrie. Hein, la femme garde son cœur au vaincu. Hein.
La femme garde son bip au vainqueur.
Exactement.
D'accord.
Voilà. Donc, la condition des femmes s'améliore dans les années 1950. Le divorce a été établi... donc, les femmes ont obtenu le droit de vote en 44, hein, comme je disais tout à l'heure.
D'accord.
Et pour voter la première fois,
oui,
en 45.
Ouais, j'étais sur 45, c'est la première fois que j'ai
voté. En 65, l'Occident pense l'idée d'égalité des sexes. Alors, la première femme au monde à avoir été élue au suffrage universel direct à la tête d'un État était Gaston.
On est en Europe ?
Oui, on est en Europe.
Donc, post-année 60, c'est ça ?
En 1980.
Est-ce que ce serait pas Margaret Thatcher ?
Non.
Non ?
La première femme présidente, présidente d'Islande, de 80 à 96. Donc, alors, je vais vous le dire, son nom, hein, mais...
Je parie que ça finit par Dottir.
Eh oui.
tu vois.
Il veut dire fille en islandais, c'est ça ?
Exactement.
Hein. Donc, elle s'appelait Vigdís... Finn Boga Dottir.
Voilà, la fille de Vigdís Finn Boga, du coup. Donc,
voilà. Et donc dans les pays développés, les femmes sont plus diplômées que les hommes. En 96, on comptait en France 1 million 100 000 et des patates d'étudiantes contre 900 000 étudiants. Aujourd'hui, alors, aujourd'hui, la féminité, qu'est-ce que c'est? C'est principalement des caractères morphologiques.
Alors, j'ai eu la petite info, du coup, je reviens sur... effectivement, alors, si on parle de présidence, oui. Mais si on parle de première femme à avoir gouverné, on est bien sur Margaret Thatcher de 79 à 90.
Non,
Prime Minister.
Indira Gandhi.
Oui, mais en Europe.
Oui.
Ah oui, bien sûr.
Et donc, du coup, aujourd'hui, donc, la féminité, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est avant tout des caractères morphologiques. On lui assimile des caractères aussi psychologiques et comportementaux, considérés comme féminins. Un monde qui met vraiment en exergue la femme, ce sera le monde de la publicité, du cinéma, qui donc lui trouve de la grâce, du charme, de l'élégance, du raffinement, une éternelle jeunesse, hein, puisque l'idée de la crainte du vieillissement est souvent liée à la femme. Tous ces archétypes, donc, ainsi que celui de la mère de famille et de la femme séductrice. Hein, comme disait Michel Sardou, hein, femme des années 80, ayant réussi
l'amalgame
de l'autorité et du charme. Voilà. Comme la virilité, la féminité a ses défauts conçus comme des exagérations des qualités de tous ces critères étant définis culturellement. Alors, après, donc, dans les prochaines émissions, on essaiera aussi de voir un petit peu la différence entre ce qui pourrait être culturel et ce qui pourrait être finalement...
sociétal.
Être simplement, en fait. C'est-à-dire que, voilà, qu'est-ce qui...
Est-ce qu'on fera la différence entre l'inné et l'acquis, finalement?
Exactement, quoi, voilà. Faire cette différence...
On y va.
Même si je sais que c'est pas facile, aujourd'hui,
ouais,
de discuter de ces sujets.
On a passé du temps ensemble, toi et moi.
Mais, temps toujours agréable, mon cher Gaston. Je pense que je vais terminer.
Bon, très
c'est bien.
Très bien. Mon cher Lorenzo, t'as été un petit peu long, alors je serai beaucoup plus court.
Malheureusement.
Parce que la prochaine fois, on inversera la tendance.
Ah, parfait.
Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet de société qui s'appelle la jalousie dans le couple et comment la comprendre et la gérer. Alors, moi, la question que je me suis posée, c'est quelle fonction la jalousie a-t-elle dans notre couple? Enfin, le mien, ça va, je suis pas trop concerné. Mais j'en connais quelques-uns qui sont plutôt embêtés là-dessus. Alors, est-elle inévitable? Ou peut-on la combattre?
Ben, j'espère, mon petit Gaston.
Allez, on y va. Le point sur la question. Le sentiment de jalousie. Mon cher Lorenzo, le sentiment de jalousie, est-ce que tu as... Bon, toi qui es un peu éduqué, un peu, saurais-tu me dire à quel moment dans une vie ça peut déjà débarquer? Est-ce que c'est tout de suite, boum, ça nous arrive sur la tronche parce qu'on est gamin, parce qu'on évolue, parce que...
Ben, je pense que... En fait, je pense que l'une des plus grandes peurs de l'être humain, c'est l'abandon. Et je pense que la première jalousie, elle est entre le père et l'enfant.
Et c'est une bonne réponse de Lorenzo. Le premier sentiment de jalousie se manifeste dans l'enfance. Au moment où le petit enfant prend conscience que sa mère ne lui est pas entièrement dévouée. Bien que la tienne te fût entièrement dévouée.
Hein, j'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance.
Par maman, solo, tout ça. Donc, et donc, c'est à ce moment-là que le gamin, il se rend compte qu'il doit renoncer à une relation fusionnelle. Et... exclusive. Bah oui, forcément, c'est ma maman, tu vas pas me la piquer. Puis, après, il y a la phase d'Oedipe, quand la fillette ou le petit garçon doit renoncer à l'amour avec le parent du sexe opposé. Donc toi, tu as dû renoncer à l'amour avec ta chère maman.
Oui, bah oui.
Voilà.
Malgré que c'est la seule femme qui puisse m'aimer d'un amour inconditionnel.
Inconditionnel, et jusqu'à son dernier souffle, d'ailleurs. Bon, toi, tu n'as pas connu ça. Moi, ça m'est arrivé. Je n'ai pas été trop concerné, mais l'arrivée d'une petite sœur ou d'un petit frère constitue encore des motifs de jalousie pour l'aîné qui doit partager l'amour de ses parents.
Effectivement.
Tu n'as pas été concerné non plus.
Non.
On aura des invités prochainement. On aura d'ailleurs un très bon podcast. Je te laisserai en parler à nos auditeurs.
Le fameux...
En fin d'émission.
Très bien. On fera un teasing.
Voilà. Donc maintenant, la jalousie. Est-ce que c'est utile? Est-ce que dans le couple, ça peut... bon, moi, je pense que ça dessert plus qu'autre chose. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est utile? Est-ce que ça peut éventuellement être utile? Est-ce qu'il faut en passer par là pour évoluer, pour se dire... voilà.
Bah, personnellement, je ne pense pas que ce soit utile. Après, je pense que, en fait, on a besoin de ressentir un tant soit peu de jalousie chez l'autre pour des fois comprendre qui tient à nous.
Ah, c'est... Donc, aimer, c'est se réjouir, disait Aristote.
Tout à fait.
Donc, c'est-à-dire se réjouir de la présence de son amoureux ou de son amoureuse pour toi, hein. Même si ça fait un moment que t'as pas eu de vraie amoureuse. T'as beaucoup d'amoureuses.
Mais on peut parler souvent, de ma vie sentimentale mais... si tu veux, voilà. Gaston, mais non, oui, non, effectivement. Non,
non, je... de maman, ça va aller, l'enfance, ça suffit. On va s'arrêter là. Et donc, la présence de l'amoureux, le voir vivre et s'épanouir. Donc, c'est pour ça que Aristote disait aimer, c'est se réjouir. Et ça, c'est difficilement compatible avec la jalousie, parce que la jalousie, c'est quoi ? C'est le désir de possession et de contrôle, tu vois. C'est ça qui domine.
Bien sûr.
Maintenant, de quoi elle vient, cette jalousie toxique, souvent maladive ?
Déjà, je pense que ça vient de deux choses, donc cette peur de l'abandon et un gros manque de confiance en soi.
Et encore une bonne réponse de Lorenzo.
Merci, merci.
Eh oui, car la jalousie trahit en réalité une dépendance affective et un manque de confiance en soi. On dirait que tu as l'air de savoir de quoi tu parles, mon cher Lorenzo.
La psychologie, non, mais la psychologie humaine, je maîtrise.
Voilà, on a constamment peur d'être abandonné par son amoureux et par son amoureuse parce qu'on ne se sent pas digne de son amour. Tu vois ? Voilà. Bon, je prends l'exemple, moi, autour de moi, dernièrement, une amie me disait, je suis sorti un an avec un comédien, un mec qui commence à devenir un peu connu. Je vais pas le citer, c'est un mec qui commence à, voilà. Je l'ai vu dans quelques petits trucs à la télé. Monsieur fait des pubs, alors ça commence à rentrer, quoi. Et donc, il commence à devenir un peu connu, donc ma copine s'appelle Héloïse, elle a 28 ans. Eh ben, et elle n'en revenait pas que le mec reste avec elle, en fait, tu vois.
Voilà. Elle avait le syndrome de l'imposteur.
Exactement. Alors que le mec passait, il tournait avec des filles sublimes. Bon, il la trompait peut-être avec ces filles-là, on ne sait pas, pendant son boulot. Mais elle était là à me dire, oh, mais je comprends pas. Voilà.
Pourquoi il m'aime ? Pourquoi moi ?
Voilà. Du coup, elle était dans une jalousie maladive et en fait, finalement, ils ont fini par se séparer. Parce que ça a bousillé leur couple.
Ouais.
Tu vois ? Mais bon, alors, Freud, la psychanalyse, hein, le père, voilà, parlait lui de la jalousie de protection. Elle s'empare de l'amoureux d'un homme ou d'une femme qui projette sur son propre partenaire ses désirs d'infidélité. Et ça, c'est terrible. On en connaît autour de nous. Hein. Moi, j'ai quelques cas. Bon, on va pas citer tous les cas d'école parce qu'on n'en finirait pas. Et maintenant, alors, comment passer outre ? Comment se dire, bon, ça va pas, je veux pas que ça me pourrisse la vie. Je veux pas que ça me pourrisse mes relations de couple. Donc, maîtriser sa jalousie. Est-ce que ça t'est déjà... Toi, tu t'es déjà posé la question de te dire...
Bien sûr. Ouais. Bien sûr, je pense que la jalousie, de toute manière, c'est un sentiment qui va être plus fort que soi, mais qu'on peut canaliser parce qu'on sait que c'est irrationnel.
Alors, tu vois, tout à l'heure, t'as dit un truc, il en faut un petit peu. Et bien justement, donc c'est là où j'en viens, parce que l'absence de jalousie dans le couple, pour beaucoup de gens, on va dire, c'est un de l'indifférence.
Exactement, je pense que ça peut être perçu de cette manière. Oui.
Mais jamais on va parler d'une marque de confiance. Jamais, d'accord ? Mais à côté de ça, c'est vrai que quand c'est modéré, comme tu disais tout à l'heure, il en faut un petit peu, et ponctuel, et bien ça peut être une façon, comme une autre, hein, bien sûr, sans attendre la Saint-Valentin, de réaffirmer son amour à l'autre, en fait, à la personne aimée, à son conjoint, et d'entretenir la séduction. Mais la petite jalousie, tu vois, pas le truc, pas fliqué, pas pourrir la vie non plus. Mais le problème, c'est que ça devient souvent beaucoup trop envahissant, et puis parfois, ça prend des formes pathologiques, et on tombe dans la parano.
Et agressive.
Voilà.
Pour mes expériences.
et en plus de ça, agressive. Tu vois, mais ça, je pense que c'est pas genré. C'est-à-dire que je pense que
il n'y a vraiment pas de...
C'est, voilà. Bon, en général, moi, j'en ai connu... la fille veut regarder dans le portable, il prend le téléphone, il l'explose par terre. Oh, c'est quand même, tu te dis...
C'est louche, bon. C'est louche, là, il doit se passer voilà. Quelque chose. Ah, il y avait... à un moment donné,
c'est bizarre, il fonctionne plus du coup, t'es au courant. Oui, mais c'est peut-être mieux ainsi.
voilà.
j'ai le souvenir d'une amie qui m'a demandé ça. Mais tu trouves ça normal, toi, t'aurais fait ça ? Je pense qu'il y a peut-être un souci, mais bon, après...
Surtout que, bon, à 1000 balles le iPhone, ça fait quand même un peu mal.
Voilà. Oui, mais attention, nos auditeurs vont croire que... Du coup, moi qui n'achète que des smartphones de la chinoiserie à 200 balles, j'en ai rien à foutre de le péter, tu vois. Et que je suis un homme infidèle, par définition.
Mais non, mais personne ne pourra penser ça de vous, Gaston. Non,
en plus, mais attention, c'est-à-dire que tous les hommes qui achètent des smartphones à 200 euros, par exemple, hein, ne sont pas plus infidèles que ceux qui prennent des iPhones à 1000.
Mais bien entendu, voilà, bien entendu.
C'est là que je veux en venir. Donc maintenant, je termine avec retrouver une autonomie affective, se débarrasser de ce poison. Est-ce facile? La réponse, on la connaît tous. Non. Au quotidien, d'abord, alors maîtriser sa jalousie. Ah, compliqué. Parce que, au final, c'est maîtriser quelque chose qui demande qu'à être exprimé. C'est, tu vois, c'est intense.
Il est vrai.
Voilà, ça bouge, ça. Les montagnes russes. Et donc, ça passe par un travail personnel. Et ça, l'autre ne peut rien y faire.
Tout à fait. Mais d'une manière générale, il est compliqué de contrôler ses émotions.
Ben oui, tout à fait.
Encore plus quand elles sont négatives.
Et ça me rappelle que tout à l'heure, j'ai envoyé un message. Tu vois, je prends mon portable. Je disais, voilà, on va pouvoir se libérer de ça. L'autre, il n'y est pour rien. Donc, moi, j'ai un ami en ce moment qui, c'est un peu compliqué dans son histoire, dans sa relation. Je lui ai écrit, je te dirais simplement que la jalousie n'est que la blessure de l'amour propre et qu'on ne peut rien pour ceux qui n'ont pas encore fait le chemin nécessaire. Leur chemin. C'est-à-dire que, en fait, la prise de conscience doit venir du jaloux maladif.
Exactement.
Et que l'autre, malheureusement, se bat contre... Il enfonce des portes ouvertes ou il nage à contre-courant.
Bien sûr.
Donc il finira par... Même si c'est un superbe athlète, un super nageur, à contre-courant, on finit toujours par se fatiguer. On coule, on se noie.
Bien sûr, et ça mènera forcément à perdre et fracas à la fin de la relation. C'est ça
exactement. Alors, dernier conseil, l'objectif, ce serait de se positionner d'égal à égal avec son partenaire et profiter pleinement de son amour. Facile à dire, mais pas facile à faire. Veillons aussi à ce que notre épanouissement personnel ne soit pas tributaire de l'amour qui nous est porté.
Voilà. Exactement.
Afin de toujours rebondir.
Parce que sinon, on nous échappe.
Si tu t'aimes pas toi-même, comment veux-tu que les autres t'aiment? C'est
voilà.
Le respect.
Exactement.
Eh bien, voilà, mon cher Lorenzo, pour ma part, en ce dimanche.
Sur ce petit édito, eh bien, c'est intéressant.
D'ailleurs, mon prochain sujet sera, ce que je disais tout à l'heure, oui. en off, la différence d'âge joue-t-elle sur la sexualité?
Ah!
Dans le couple. Enfin, ah. Ce sera le prochain dimanche.
Très bien, pas de ça. Très bien. On aborde des sujets costauds.
On mettra peut-être aussi prochainement, on avait dit éventuellement, on fera un To Bib or Not To Bib.
Tout à fait, un To Bib or Not To Bib.
On recevra deux médecins généralistes et on leur posera certaines questions, notamment d'actualité.
Voilà,
sur la Covid.
Et on reviendra notamment sur ton édito sur les hormones. Comme ça, on pourra
par exemple,
l'expérience de deux médecins là-dessus.
Si ceux-ci sont dispo en même temps et ils sont OK pour participer à l'émission, bien entendu.
Bien entendu. Merci à tous.
Tendresse.
Chocolat.
Voilà.
Merci Gaston.
Merci Lorenzo pour ta participation toujours agréable.
Ah, vous êtes trop bon. Et à bientôt.
Et à bientôt, Gaston.